Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi pleure-t-on de joie? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 janvier 2026 dans la presse. Plusieurs explications sont avancées par les chercheurs qui se sont intéressés aux larmes de joie. L'hypothèse la plus courante est qu'il s'agit d'une joie tellement grande que le cerveau s'inquiète et déclenche des larmes, explique Bernardo Paoli de l'Académie des techniques psychologiques de Turin, en Italie, qui a publié un texte sur le sujet en 2022 dans la revue Frontiers in Psychology. Une émotion trop forte est considérée comme potentiellement menaçante par le cerveau, comme le serait de la tristesse. Cela ferait des larmes de joie un phénomène dimorphe qui a deux formes, explique M. Paoli. C'est une émotion, la joie, qui se manifeste dans certains cas par une expression associée à un autre type d'émotion, la tristesse. Un autre phénomène dimorphe courant est l'agression qui se cache derrière le jeu, comme quand deux enfants se chamaillent. Le psychologue italien a toutefois proposé une autre explication. Les larmes surviendraient lors d'une joie qui est reliée au sens de la vie. On pleure de joie quand on se fiance ou se marie, quand on a un enfant, quand on gagne une récompense, pas quand on est content de rentrer chez soi et de voir sa famille, souligne-t-il. C'est un peu comme si le cerveau disait, avec les larmes, à la personne « Cette joie que tu éprouves est reliée à quelque chose d'important pour toi. Prends-en conscience. » Hypothalamus et amygdale. Dans certains cas, comme lors des larmes suivant un orgasme, une personne peut avoir effectivement l'impression que les larmes sont un signe du destin. Par exemple, que le partenaire qui suscite ses larmes post-coïtales est celui qu'il faut épouser, observe-t-il. Il a validé cette hypothèse en interrogeant des étudiants rencontrés lors de 6 jours d'études au Japon et en Inde, et auprès de ses patients à Turin. C'est d'ailleurs son expérience clinique en hypnose qui lui a d'abord donné l'idée de cette recherche. Des patients pleuraient avec un visage très semblable à la douleur, mais me disaient qu'ils étaient heureux, relate-t-il. Il prépare maintenant une publication sur 24 situations susceptibles de provoquer des larmes de joie. Michel Spear, biologiste qui enseigne l'anatomie à l'Université de Bristol, a détaillé les structures du cerveau responsables des larmes au printemps 2025 dans un essai publié sur le site The Conversation. Les larmes de joie sont le résultat de réactions en apparence contradictoires de deux régions du cerveau. Mais à l'intérieur du cerveau, cette réaction involontaire a un sens, dit le biologiste. Les larmes sont générées par des signaux de l'hypothalamus qui contrôlent des fonctions automatiques du corps humain, comme la respiration et le rythme cardiaque, indique Mme Spear. L'hypothalamus est lui-même contrôlé par l'amygdale, une autre région du cerveau qui interprète les émotions. Normalement, l'amygdale est tempérée par le cortex antérieur impliqué dans la prise de décision et le contrôle des émotions. Pour une raison inconnue, une joie très forte est interprétée par l'amygdale comme une alerte, sans que le cortex préfrontal ait le temps de corriger cette interprétation, dit Mme Spear. L'exemple des médaillés olympiques. Pour compliquer le tout, la culture influence les larmes de joie. Dans les pays où il y a plus d'inégalités entre hommes et femmes, les hommes ont moins de pleurs de joie, explique Alex Krummer, économiste et chercheur au Collège universitaire de Molde, en Norvège, qui a publié une étude sur le sujet en 2024 dans la revue Emotions. Il a analysé des vidéos montrant des médaillés d'or sur le podium aux Jeux olympiques d'été de 2012 et de 2016. L'étude des larmes de joie est compliquée par le fait qu'elles sont beaucoup plus rares que les larmes de tristesse, dit-il. Soit on se fie au souvenir des participants, soit on essaie de recréer une joie extrême en laboratoire. Dans les deux cas, ce n'est pas satisfaisant. Charles Darwin disait que les larmes sont un phénomène crucial de l'expérience humaine, parce que c'est la première chose qu'on fait en naissant. À la naissance, la plupart des bébés pleurent. La prochaine étape dans l'étude des larmes de joie est de distinguer si elles sont plus fréquentes chez certains types de personnalités, indique Alex Krumer. Selon lui, il pourrait être utile d'étudier les participants aux jeux télévisés à ce sujet. En savoir plus, 66 % proportion des Américains qui affirment avoir pleuré lors de la naissance de leurs enfants. Source, Psychological Science. 20 % proportion des Italiens qui ont déjà pleuré après un orgasme. Source, Bernardo Paoli, psychologue. C'était « Pourquoi pleure-t-on de joie ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse.
Pour réduire le risque de démence, une étude révèle qu'il faudrait consommer régulièrement du fromage. Une réponse inattendue à un défi sanitaire mondial. Un texte de Laurie Henry, paru le 24 novembre 2025 dans Science et Vie. Alors que le vieillissement de la population mondiale accélère, la démence s'impose comme un défi sanitaire majeur. En 2025, plus de 50 millions de personnes en sont atteintes, un chiffre appelé à tripler d'ici 2050 selon l'OMS. Le Japon, avec l'un des taux de vieillissement les plus élevés, est en première ligne. 12,3% de ses habitants de plus de 65 ans vivent déjà avec la maladie. Face à l'absence de traitement curatif, l'attention se porte sur les facteurs modifiables, notamment l'alimentation. Une étude publiée en octobre 2025 dans la revue Nutrients et menée par des chercheurs du Centre national de gériatrie et de gérontologie de l'Université de Nimi et de l'Université de Chiba apporte un éclairage inattendu. Une consommation hebdomadaire de fromage pourrait modestement réduire le risque de développer une démence, une piste alimentaire intrigante dans un pays où le fromage reste marginal. Une étude rigoureuse sur une population vieillissante. L'étude s'appuie sur une cohorte japonaise représentative et robuste. 7914 personnes âgées de 65 ans ou plus, vivant à domicile, sans antécédent de certification en soins de longue durée. Elle repose ainsi sur les données du programme JAGE, Japan Gerontological Evaluation Study, de 2019 à 2022. Les participants ont été répartis équitablement entre deux groupes. D'un côté, ceux consommant du fromage au moins une fois par semaine. De l'autre côté, ceux n'en mangeant jamais. Pour réduire les biais, les chercheurs ont appliqué une méthode de propensity score matching. Elle permet de créer des groupes statistiquement comparables sur des variables clés telles que l'âge, le sexe, les revenus, le niveau d'éducation, l'état de santé auto-évalué et les capacités fonctionnelles. Les chercheurs mesurèrent la survenue de démence via les certifications administratives d'assurance dépendance, un indicateur couramment utilisé au Japon. En trois ans, 134 personnes, 3,4% parmi les consommateurs, ont développé une démence, contre 176, 4,5% chez les non-consommateurs. Cette différence, bien qu'apparemment modeste, correspond à une réduction de 24 % du risque relatif. Les chercheurs insistent. Il ne s'agit pas de démontrer une causalité, mais d'observer un lien suffisamment solide pour justifier des investigations supplémentaires. Dans un contexte de vieillissement accéléré, cette étude contribue à identifier des leviers accessibles pour prévenir la démence à l'échelle de la population. Une composition nutritionnelle favorable à la santé cérébrale. Les auteurs suggèrent plusieurs mécanismes biologiques pouvant expliquer l'association observée. Bien que l'étude ne mesure pas directement ces mécanismes, Elle s'applique sur des connaissances établies sur les nutriments présents dans le fromage, notamment dans ses versions fermentées. Le fromage constitue une source de vitamine K2, nutriment liposoluble. Il joue un rôle essentiel dans la santé vasculaire et le métabolisme du calcium. Or, des troubles vasculaires, comme l'hypertension ou l'athérosclérose, sont réputés augmenter le risque de démence, en particulier la démence vasculaire. La vitamine K2, en régulant la calcification vasculaire, pourrait ainsi contribuer directement à la protection cognitive. Le fromage apporte également des protéines et des acides aminés essentiels. Ils soutiennent le fonctionnement neuronal. Certains peptides bioactifs libérés lors de la fermentation pourraient exercer des effets anti-inflammatoires ou antioxydants. Il s'agit de deux voies biologiques fortement impliquées dans le déclin cognitif. Autre piste explorée par les chercheurs, le microbiote intestinal. Le fromage fermenté, comme le camembert ou le brie, contient des probiotiques capables de moduler l'axe intestin-cerveau. De nombreuses études ont établi un lien entre déséquilibre du microbiote et pathologies neurodégénératives, y compris Alzheimer. Cependant, dans cette étude japonaise, 82,7% des participants déclaraient consommer du fromage transformé. Ce dernier se montre moins riche en probiotiques et nutriments bioactifs que les fromages affinés. Seuls 7,8% consommaient des fromages à moisissure blanche. Cela indique que les bénéfices observés pourraient être liés à des effets cumulés plus subtils de l'alimentation dans son ensemble ou à d'autres composants encore mal identifiés dans les produits laitiers. Une alimentation révélatrice de comportements de santé globaux. L'analyse secondaire menée par les chercheurs a permis d'ajuster les résultats en fonction des habitudes alimentaires générales des participants. Ceux qui mangeaient du fromage avaient aussi tendance à consommer plus souvent des fruits, des légumes, de la viande ou du poisson. Or, ces aliments se voient eux-mêmes associés à un meilleur vieillissement cognitif. Cette observation soulève une question essentielle. L'effet protecteur provient-il du fromage lui-même ou reflète-t-il une alimentation globalement plus équilibrée? Pour y répondre, les auteurs ont intégré ces variables dans un modèle statistique complémentaire. Après ajustement, la réduction du risque de démence associée au fromage passe de 24 à 21 % Un effet légèrement atténué, mais toujours significatif. Cela suggère que le fromage pourrait jouer un rôle spécifique au-delà d'un simple marqueur de régime alimentaire sain. La fréquence de consommation a aussi son importance. 72,1% des participants déclaraient en manger une à deux fois par semaine. De fait, un apport modéré semble suffisant pour produire un effet observable à l'échelle populationnelle. D'autres facteurs comportementaux pourraient entrer en jeu. Les consommateurs de fromage présentaient également de meilleures fonctions dans les activités instrumentales de la vie quotidienne. Courses, gestion de l'argent, préparation des repas et une moindre fréquence de plaintes mnésiques. Ces éléments pourraient indiquer un meilleur état cognitif de départ, non totalement contrôlé par les analyses. Limites de l'étude et perspectives pour la recherche et la santé publique. Si cette étude constitue une contribution sérieuse au débat scientifique, elle comporte des limites méthodologiques importantes que les auteurs eux-mêmes reconnaissent. D'abord, la consommation de fromage ne fut évaluée qu'une seule fois au début de l'étude, et sans prise en compte des quantités ni des évolutions dans le temps. Il demeure donc impossible de déterminer un seuil optimal de consommation ou d'évaluer un effet cumulatif. Ensuite, les données sur la démence proviennent de fichiers administratifs liés aux certifications d'assurance dépendance et non de diagnostics médicaux cliniques. Cela limite la précision des données, notamment pour distinguer les différents types de démence. Autre limite majeure, l'absence de prise en compte de facteurs génétiques comme l'APOE4, gène connu pour augmenter le risque de maladie d'Alzheimer. Sans cette donnée, il reste difficile d'évaluer dans quelle mesure l'effet observé s'applique à toutes les catégories de population. Enfin, le contexte japonais mérite d'être souligné. Le fromage s'y trouve peu consommé, 2,7 kg par an par personne, bien en deçà des niveaux observés en Europe. Il se peut donc que de faibles variations d'apport aient un impact plus marqué dans cette population que dans des pays où la consommation reste plus élevée. Cela limite la généralisation immédiate des résultats. Malgré ces réserves, les auteurs estiment que les résultats peuvent guider des actions de santé publique. En particulier, ils encouragent la recherche sur les effets spécifiques des différents types de fromages, la durée de consommation et les interactions avec d'autres facteurs de risque. À terme, ces travaux pourraient nourrir des recommandations alimentaires ciblées pour le vieillissement cognitif. C'était, pour réduire le risque de démence, une étude révèle qu'il faudrait consommer régulièrement du fromage. Une réponse inattendue à un défi sanitaire mondial. Un texte de Laurie Henry, paru le 24 novembre 2025 dans Science et vie.
Quand les chiffres tuent les soins. Un texte de Pierre Beaupré, paru le 5 janvier 2026 dans Le Devoir. Oui, il faut gérer et améliorer notre système, mais cela exige un changement de culture. L'année 2025 aura été difficile pour notre système de santé. Départ important de médecins, démissions successives des ministres Lionel Carman et Christian Dubé. Au cœur de ces déboires, un désaccord fondamental sur les indicateurs de performance et les moyens de les atteindre. Les gestionnaires répètent un mantra apparemment évident. On ne peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. Appliqué à la santé, ce dogme devient absurde. Selon cette logique, vous n'améliorerez pas votre santé en adoptant simplement une diète méditerranéenne et en bougeant plus. Il vous faudrait d'abord une montre GPS, puis calculer méticuleusement vos calories, vitamines et nutriments pour gérer votre santé. Le problème est bien connu. On finit par gérer ce qu'on peut facilement mesurer en délaissant l'essentiel. Compter les patients vus en 4 heures est simple. Mais comment mesurer la compétence d'un soignant, la sécurité des soins prodigués, la qualité de l'écoute et du conseil? C'est comme prétendre qu'il est plus facile de gérer sa santé avec des chips, dont tous les nutriments sont inscrits sur le sac, qu'avec des fruits et légumes. Face à la complexité de la santé, la tentation est de tout découper en petites parties mesurables, puis de recoller ces fragments en espérant reconstituer une personne. Un roman célèbre raconte l'histoire d'un scientifique qui a déjà tenté l'expérience. Il s'appelait Frankenstein. Après 3 décennies dans l'enseignement médical, je constate que la compétence s'observe bien plus facilement qu'elle ne se mesure. Notre système top-down, ultra-centralisé, confie les décisions à des gestionnaires généralement éloignés des soins et ignorants des réalités variables selon les régions. Privés d'observation directe, ils se rabattent sur des statistiques qui deviennent leur seule réalité. Cette obsession chiffrable détourne des budgets massifs vers des armées de fonctionnaires produisant des données plutôt que vers les soignants qui servent la population. En 1956 déjà, le chercheur V.F. Ridgway publiait un article sur les « conséquences dysfonctionnelles des mesures de performance ». Près de 70 ans plus tard, difficile d'imaginer que le ministère et Santé Québec, créé précisément sur le concept d'indicateur de performance, fasse marche arrière. On peut néanmoins espérer que la nouvelle ministre, grâce à son expérience comme soignante, ait développé une vision du système de santé qui dépasse une simple série d'indicateurs. Oui, il faut gérer et améliorer notre système. Mais cela exige un changement de culture axé sur la compétence clinique, la sécurité des soins, la bienveillance et la performance globale et multidisciplinaire, tous des concepts difficiles à mesurer, justement. C'était « Quand les chiffres tuent les soins », un texte de Pierre Beaupré, paru le 5 janvier 2026 dans Le Devoir.
Maladie rare, s'accrocher à l'espoir. Un dossier de Suzanne Colperon, publié le 14 novembre 2025 dans La Presse. À Sainte-Dorothée, Nathalie de Passillé fonde de grands espoirs sur un traitement expérimental qui pourrait freiner la progression de la maladie rare dont souffre son fils de 16 ans. Pendant ce temps, des associations de patients cherchent toujours à savoir où sont passés les 305 millions versés par Ottawa pour ces maladies. Le jeune Simon est atteint de la maladie de Huntington, affection héréditaire, dégénérative et mortelle. À 16 ans, Simon sait déjà que sa vie ne sera pas comme celle des autres. Il ne conduira jamais d'auto, il ne fera jamais l'amour, il n'aura jamais une relation stable. Sa mère, Nathalie de Passillé, le dit sans drame, mais sans détour. Son fils est atteint de la maladie de Huntington. Cette affection héréditaire, dégénérative et mortelle, provoque la destruction progressive des cellules du cerveau, entraînant des troubles du mouvement, de la mémoire et du comportement. Elle a déjà vu ce que cette maladie peut faire. Le père de Simon, Christian, en est mort à 48 ans. En janvier 2024, après une longue hospitalisation, une tentative de suicide et 3 demandes d'aide médicale à mourir. « C'était insupportable. Il souffrait trop », dit-elle. Quelques mois plus tard, le diagnostic est tombé pour Simon. Lui aussi est atteint. Tout a commencé par une chute brutale de ses notes à l'école, à l'automne 2024. « J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas », dit sa mère, assise près de son fils dans le salon de leur appartement de Sainte-Dorothée. Des tests sanguins ont confirmé ses craintes. Simon a 66 répétitions du gène CAG, bien au-delà du seuil de 40 qui annonce la maladie. Chez lui, la forme est juvénile, plus rare et plus agressive. Aujourd'hui, il tombe souvent en marchant, a du mal à parler et s'étouffe parfois en mangeant. Un monde qui se rétrécit. L'école est devenue une épreuve. Il échoue dans presque toutes les matières et s'isole. Il n'a plus d'amis. Il n'a plus de façon dans sa vie d'être fier de lui. Son univers, c'est moi, le chien et sa sœur. Dans sa chambre, pour se sentir bien, il met plein de doudous et il se colle dedans. Nathalie de Passillé, mère de Simon. C'est comme s'il s'était créé un endroit dans sa tête, poursuit-elle. Quand ça va très, 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 très mal, Simon prend l'urne contenant les cendres de son père, posée sur la table du salon, et s'enferme dans sa cabane. Lueur d'espoir. Longtemps appelée Corée de Huntington ou danse de Saint-Guy, cette maladie provoque la mort des cellules situées dans une région centrale du cerveau. Aucun traitement ne permet aujourd'hui de la soigner, d'en retarder l'apparition ou d'en ralentir la progression. Les médicaments existants ne servent qu'à calmer certains symptômes. Mais une lueur d'espoir est apparue récemment aux Pays-Bas, où l'entreprise de biotechnologie UniCure teste un traitement expérimental d'une ampleur inédite. Le protocole consiste en une seule injection directement dans les zones cérébrales atteintes. Les chercheurs y introduisent un vecteur viral qui éteint le gène défectueux responsable de la maladie. Dans une étude menée sur 29 patients, sans placebo prolongé pour des raisons éthiques, les chercheurs ont observé un ralentissement de 75 % de la progression de la maladie sur une période de 3 ans. Autrement dit, une détérioration qui surviendrait normalement en 1 an s'étale sur 4 ans. C'est beaucoup d'années, constate Gilles Tossing, chercheur en neurosciences au CHUM, lui-même issu d'une famille touchée par la maladie. Et c'est une seule intervention. Après, c'est bon en principe pour le reste de la vie des patients. Encore loin du Québec. Malgré ces résultats prometteurs, le traitement n'est pas encore autorisé. Simon pourrait-il en bénéficier? Ça va dépendre de la position que va prendre Santé Canada, répond M. Tossing. Pour les essais cliniques, il faut faire 3 phases avant qu'un médicament puisse être sur le marché. Dans ce cas-ci, l'essai n'a franchi que la phase 2 et la Food and Drug Administration, FDA, américaine, a refusé d'autoriser une procédure accélérée, estimant que le groupe contrôle ne suffisait pas à confirmer les résultats. UniCure devra donc lancer une phase 3 plus classique, ce qui repousse l'accès au marché d'environ 6 ans. Une ouverture plus rapide pourrait toutefois venir d'Europe. L'entreprise négocie actuellement avec la Grande-Bretagne et des pays européens pour obtenir un accès anticipé qui permettra une autorisation d'ici 2 ou 3 ans. S'ils reçoivent le statut accéléré là-bas, c'est comme des pièces de domino. Une fois qu'un pays ou un continent l'a accepté, les autres vont suivre rapidement, explique le chercheur. La vie continue. Pour Nathalie de Passillé, cette perspective constitue un espoir. Tout ce que je demande, c'est est-ce qu'on peut participer à la recherche? Allongé sur le sofa, Simon écoute sans rien dire. Il bouge sans arrêt ses jambes, incapable de rester immobile. « Ça va, Simon? » « Oui, » dit-il, en caressant son chien Winston, avant de se pencher vers sa mère pour lui chuchoter « Je t'aime. » En savoir plus. 1300. Nombre estimé de personnes atteintes de la maladie de Huntington au Québec. 50%. Si un parent est atteint de la maladie de Huntington, son enfant a 1 chance sur 2 d'hériter du gène défectueux. C'était Maladie rare, s'accrocher à l'espoir. Un dossier de Suzanne Colperon, publié le 14 novembre 2025 dans La Presse.